Bonjour à tous et bienvenue autour de votre grande table. Dans la seconde partie de l'émission, à partir de 12h55, rendez-vous avec une figure du sarkozysme, l'ancien conseiller Henri Guénaud, auteur de « Ils veulent tuer l'Occident » chez Odile Jacob, un essai où il s'élève contre le mal qui ronge nos sociétés. Oui, mais lequel ? À droite, la fin du monde, on en parlera donc dans une cinquantaine de minutes avec lui. Mais d'abord, Laurent Stocker, comédien sous influence. Le sociétaire de la Comédie Française est actuellement à l'écran dans Jeux d'influence sur Arte de Jean-Xavier de l'Estrade, réalisateur oscarisé pour Un coupable idéal, et de Antoine Lacomblaise, une série sur l'activisme de l'industrie agrochimique et les dangers sanitaires des pesticides. Laurent Stocker est notre invité jusqu'à midi et demi. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Vous avez une leucémie, monsieur Villeneuve.
Je vais faire interdire les pesticides les plus toxiques.
Le ministre va vous recevoir.
Ce sont des missions de lobbying que je voudrais vous confier.
Ce sont les trois produits phares de Saskia que vous voulez faire interdire.
Le directeur du marketing chez Saskia vient de se foutre en l'air. Un tailleur noir.
C'est pour une plainte. Empoisonnement.
Je défends les intérêts du groupe Saskia.
Foutez-moi le camp.
Mais non, restez. Un agriculteur gravement malade, le cadre d'une multinationale de l'agrochimie retrouvé mort noyé, un député en lutte pour faire changer la réglementation sur l'utilisation des pesticides. Bienvenue dans la nouvelle série thriller et politique diffusée à partir de ce soir sur Arte, où notre invité est Guillaume Delpierre, un député convaincu qu'il a encore un rôle à jouer par la loi, avec l'arme du droit. Bonjour Laurent Stocker.
Bonjour Olivier Gisbert.
L'agriculteur malade d'une leucémie, oui, est un ami du député que vous incarnez. Il est un élu de proximité, cet homme, ce monsieur Delpierre. Au fondement de son engagement, très vite, il va être nommé rapporteur de la nouvelle loi agricole et se donner les moyens de déposer un amendement pour faire interdire les pesticides les plus dangereux. Ce qui vaut déclaration de guerre pour la multinationale qui les commercialise, conviction, empathie, ténacité. Vous incarnez le juste dans cette série et dans cette affaire. Vous vous êtes inspiré de figures politiques existantes pour y arriver? Vous en avez trouvé?
Je me suis inspiré de figures politiques qui pourraient exister ou qui ont peut-être existé ou qui existeront, j'espère, mais pas d'une personne en particulier. Non, je me suis inspiré simplement du fait que les gens, quelquefois, ont des engagements politiques et ils ne renient pas leur conviction. Ça a quelque chose à voir avec la foi, c'est quelque chose qui est là. Et ils sont tout le temps en train de se dire comment je vais faire pour pouvoir bouger les lignes, comment je vais faire pour pouvoir trouver que mes administrés aillent mieux par rapport au fait que, bon, bah là, c'est des pesticides. Mais je crois que ça existe encore. Et le côté politique, tous pourris, j'aime pas trop ça. Je préfère me dire qu'il y a encore des gens qui peuvent faire bouger les choses. Maintenant, malheureusement, ils sont pas tout seuls. Et il y a des gens qui font tout pour essayer de faire en sorte qu'ils ne puissent pas arriver à leur fin.
Voilà, parce que c'est une plongée, cette série Jeux d'influence, dans le monde du lobbying, une pratique légale et courante, oui, en soi. Et c'est toute la force de cette série, c'est de montrer aussi le télescopage entre ses intérêts publics que lui défend et les intérêts privés des grandes industries qui les portent. Où sont aujourd'hui, pour vous, les vrais lieux de pouvoir, Laurent Stocker?
C'est compliqué parce que il faudrait interroger aussi quelqu'un dont c'est vraiment le métier. Mais je pense que malheureusement les lobbyistes sont des gens qui ont dans certains cas beaucoup plus de pouvoir que le politique. Et ça se voit parce qu'il y a des gens qui ont commencé des combats et qui ont dû les arrêter ou faire des rétropédalages ou bien même carrément démissionner parce qu'ils n'étaient plus en accord avec une autre politique qui, elle, était sous influence. C'est exactement ce que racontent les six épisodes de Jeux d'influence qui est à partir de ce soir.
Au sommet de l'État ou de ces grandes multinationales, il y a des jeux de pouvoir et d'influence qui sont, comme tout jeu, peut-être toujours périlleux et pas simplement ludiques, où tous les coups sont permis. On va écouter un extrait de jeu d'influence où l'on vous entend vous exprimer.
T'as vu ça comment?
Journaliste.
Ça va sortir?
On m'a exclu pendant une semaine. Si ça sort, elle est grillée. C'est la seule chose qui compte.
Tu crois quand même pas que je vais me servir de ça?
Pourquoi pas? Alors, puis c'est la rage dans l'hémicycle. T'as vu comment elle t'a parlé la dernière fois?
Tu plaisantes, là?
Personne ne saura d'où ça vient. Il suffit juste de faire courir le bruit.
T'as d'autres idées comme ça? T'as pas un petit scandale sexuel plutôt? Ça se vendra encore mieux.
Tout le monde fait ça. On passe nos journées à répéter les bruits de couloir.
Toi peut-être, mais moi j'évite de pourrir les réputations.
Mais attends, c'est elle qui est pourrie, c'est pas nous.
Donc la fin justifie les moyens.
Putain, tu fais chier, Guillaume.
C'est à la justice de régler ça. Pas aux médias, ni à nous.
Rostand se fait payer son jacuzzi par les plus gros pollueurs de la région. Et c'est elle qui va défendre la nouvelle politique agricole? Tu crois pas qu'il y a comme un problème, là?
C'est pas une raison pour se salir les mains en faisant courir des rumeurs.
Mais c'est pas des rumeurs, t'as les documents.
Je touche pas à ça.
Tu préfères t'écraser? Hein? Et rapporteur, tu laisses tomber? Et il va dire quoi, ton pote, avec sa leucémie?
C'est opération main propre avec vous, hein, Laurent Stocker. Est-ce qu'il est possible pour vous de rester toujours vertueux? Est-ce qu'on ne gagne pas, ou est-ce qu'on peut gagner une guerre avec des bons sentiments?
On peut, disons, je pense, faire une belle partie d'échecs, se retrouver pat, pour ceux qui connaissent les échecs, mat, mais être toujours vertueux, c'est-à-dire que je pense qu'il ne faut pas déroger à ses envies, mais malheureusement, il faut quelquefois faire des petites concessions. C'est exactement ce que fait Guillaume dans le film.
Vous êtes bon, vous, aux échecs?
J'étais pas mal, mais il faut jouer beaucoup pour être bon aux échecs. Et comme j'ai un petit peu arrêté depuis quelques temps, je suis devenu moins bon. C'est-à-dire que la politique, c'est exactement la même chose. Je pense que il faut être toujours sur le damier. Il faut toujours avoir 2-3 coups d'avance. Quelquefois, même certains ont une partie d'avance. Et puis, il y a que comme ça que ça fonctionne, malheureusement.
Et il faut savoir bluffer.
Bluffer,
donc,
oui. Alors ça, c'est le poker aussi.
Les apparences, ouais.
Le poker, ça marche bien en politique aussi.
Est-ce qu'il est aussi droit qu'il en a l'air, votre personnage? Est-ce qu'il est aussi droit que l'arrêt de ses cheveux? On a l'impression que vous aimez bien, vous, Laurent Stocker, les personnages qui se cachent derrière une carapace, en tout cas un masque. Oui. On pense à Antoine dans Juste la fin du monde, que vous avez aussi interprété.
J'avais la même coiffure, d'ailleurs, c'est drôle que vous parliez de ça.
C'est...
Oui. Dans la vie, moi, je suis quelqu'un qui est
aujourd'hui,
plutôt ébouriffé.
Vous l'avez pas, oui.
mais sur les personnages qu'on me propose, oui, il y a quelque chose de... Oui. Droit comme la justice, peut-être un peu, Guillaume Delpierre. Maintenant, il ne faut pas parler de la fin des épisodes, mais il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Donc, il faut suivre les 6 épisodes pour voir exactement jusqu'où l'honnêteté peut aller, jusqu'où à un moment donné est-ce qu'il ne faut pas justement faire des concessions, est-ce qu'il ne faut pas essayer de faire autre chose pour pouvoir faire en sorte d'arriver à ses fins qui étaient les premières intentions, les bonnes intentions.
Ils ont raison de voir ça en vous, les metteurs en scène, les réalisateurs. Vous êtes un gars honnête dans la vie?
J'espère, j'essaye. En tout cas, quand je me regarde dans la glace le matin, ébouriffé, ça me plaît.
Là, vous vous dites que vous avez la... tête d'un homme honnête, c'est ça?
Oui, ouais. Vous savez,
peut-être plus que quand vous avez
les hommes honnêtes ne sont pas forcément ceux qui portent des cravates et qui ont des cols blancs.
C'est une série ultra contemporaine aussi. L'époque est à la prise de conscience, à la multiplication des études aussi sur la toxicité des pesticides. Il y a encore une trentaine d'années, on n'en parlait pas, on épandait sans masque ni protection. C'est d'ailleurs une série qui s'est inspirée du témoignage d'un agriculteur, Paul François.
À la fois, j'ai les conséquences de mon accident avec des problèmes de santé, et on me stigmatise parce que je suis un paysan pollueur. Et moi, j'estime avoir de la chance parce que je suis là et je vous parle. Et je suis ému parce que je pense aux copains qui ne sont plus là. Je pense à Yannick, je pense à Frédéric et puis plein d'autres qui ne sont plus là. Yannick Chenet, sur son lit d'hôpital, il m'a dit « Mais tu crois, Paul, que c'est mes produits qui m'ont empoisonné ?» Et je dis « Mais Yannick, oui, parce que... » Enfin, je sais pas, mais en tous les cas, tu as été reconnu maladie professionnelle, alors tu sais... Bon... Et quelques minutes après, il me dit « Mais j'ai peut-être empoisonné des gens avec mes produits. » C'est ça, la vie de paysan. Et il est mort à moins de 50 ans, dans des souffrances atroces. Mais moi, ce que j'essaye de vous dire, c'est que je ne veux pas que quelqu'un vive comme moi. Je ne veux pas que des gens meurent comme Yannick Chenet. Voilà. Mais il faut bon sang de bois. S'il y a, 10 agriculteurs en écoutant votre reportage qui se disent « Ouais, ben il a peut-être raison quand même. » C'est vrai qu'on ne peut pas continuer comme ça.
Voilà, on ne peut pas continuer comme ça. Il fallait mener, livrer bataille. Il fallait aussi que des hommes montent au front. Vous pensez aujourd'hui que les députés, les ministres ont le pouvoir de faire changer les choses? C'est un peu la question qui se posait aussi dans l'exercice de l'État de Pierre Scholler, dans lequel vous étiez. Cette question de la puissance ou de l'impuissance du politique aujourd'hui.
C'est compliqué parce qu'aujourd'hui, le politique, certains essayent de faire bouger les choses. Mais je pense étrangement que la politique, c'est quelque chose qui a à voir avec chaque personne. Donc c'est plutôt des mouvements citoyens, je pense, que quand un groupe décide de ne pas consommer un produit, ils sont en très grand nombre, les industriels eux-mêmes vont se dire « Ah ben, on va plus le produire ». Donc c'est aussi un combat de chacun d'entre nous. C'est-à-dire que il faut savoir ce qu'on mange, comment on se déplace, ce qu'on fait quoi de cette planète quoi. J'ai l'impression que c'est très important. En fait, il y avait cette histoire de dire, c'était un député il y a près d'un siècle de ça qui voulait faire un amendement et on lui a dit mais en fait, c'est tellement énorme qu'il faudrait commencer à vider. C'est comme si tu vidais la mer avec une petite cuillère. Et il a dit, bah oui, c'est pour ça qu'il faut commencer maintenant. Donc il faut commencer maintenant, chaque matin en se levant. Je ne sais pas si certains auditeurs ou vous-même, vous faites de la méditation ou quelque chose qui a à voir avec une sorte de... On se dit, tiens, comment on va attaquer la journée? Comment on va faire? Alors, on commence comme ça, en se disant, bon, bah, je vais essayer de pas trop... consommer n'importe quoi, de pas faire n'importe quoi dans mes déplacements, etc. Voilà, ça commence comme ça, je crois. Maintenant, on est 7 milliards, donc il faut qu'il y ait une prise de conscience un peu plus intense sur l'ensemble de la planète.
Vous faites ça le matin?
Je fais ça le matin, c'est-à-dire que c'est une philosophie. Je me dis, qu'est-ce que je vais mettre dans mon corps aujourd'hui? Quelle traçabilité je vais avoir sur les produits que je vais ingurgiter, que je vais manger. J'ai envie de savoir ce que je mange. J'ai envie de savoir que je vais pas faire trop de CO2 en avalant un légume qui n'est pas de saison, par exemple. C'est des choses toutes simples, mais si on revient au fait de manger des légumes de saison, déjà, on a une taxe carbone qui descend. Enfin, voilà, on laisse pas tourner le robinet quand on se brosse les dents. Enfin, c'est idiot, mais c'est... Voilà.
Et l'art, et la culture, le cinéma, le théâtre, les séries, est-ce qu'ils ont le pouvoir de changer les choses pour vous?
Il y avait un auteur que j'aime beaucoup, qui est Dostoïevski, qui disait que oui, l'art peut changer le monde, mais c'est la vision des artistes aussi qui font changer le monde, et puis c'est les spectateurs qui sont au rendez-vous ou pas de comment on a envie de changer les choses. Je pense que c'est que l'art, oui, l'art peut... C'est une bonne thérapie, en fait. Il y a des psychanalyses possibles. Il y a aussi pousser la porte d'un théâtre ou aller voir un film. Mm. C'est ce qu'on appelle la catharsis en grec. Bon, c'est de s'identifier à quelque chose. Si ce soir, les gens s'identifient à cette série en se disant « Mais effectivement, quel produit je mets, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que... » Voilà, ça aura fait déjà un grand pas. On aura fait un grand pas.
Parce que il y a possibilité de changer les imaginaires. Ces produits étaient perçus comme des produits miracles. Voilà ce qu'en dit aussi le concepteur de cette série, le réalisateur Jean-Xavier de Lestrade, qui, avec ce film, pratique aussi un retour aux sources. Écoutez-le parler de son enfance et du poids des images. Pour lui, c'était déjà il y a 5 ans.
Mes parents sont agriculteurs, ils cultivent du maïs, du soja, des céréales. Donc pas du tout... dans le milieu culturel, mais j'ai un frère jumeau aussi. Donc, en fait, on se racontait les histoires l'un à l'autre. Ça aide aussi, mieux que tout seul. Et vers l'âge de 13-14 ans, on a commencé à réclamer une caméra à nos parents. Donc, ça, c'est venu très tôt. Mais une caméra pour filmer quoi, finalement? Pour filmer les tracteurs dans les champs ou le maïs qui pousse. Au début, c'était ça. Et ensuite, c'est devenu véritablement de construire des récits à partir de ce que l'on pouvait observer. Et finalement, c'était une école assez exigeante parce que, bon, bah, il se passait pas grand-chose. Il n'y avait pas vraiment de choses à filmer d'un point de vue dramaturgique, mais ça permettait de construire tout de même un imaginaire et de savoir ce que l'on pouvait créer à partir d'une image.
Voilà, une caméra pour construire des récits, puis pour dénoncer comment mettre des images sur une réalité qui est assez diffuse. C'est le cas sur cette question des pesticides, de l'environnement. Et c'est le choix que Jean-Xavier de Lestrade a fait avec cette série, de filmer au plus près ces acteurs, ces personnages, des plans très serrés, pour que ce qui se joue en termes d'influence sur ces sujets-là passe par le regard de ces comédiens.
Et puis c'est aussi ne pas avoir peur d'un silence, ne pas avoir peur justement d'un regard. Dans un regard, il y a quelquefois beaucoup plus de choses qui se disent que dans 10 phrases.
Vous êtes aussi un enfant de la campagne, Laurence Stocker.
Oui, moi j'ai grandi à la campagne. Je suis arrivé à Paris, j'avais 16 ans. Et j'ai connu cette folie des épandages. J'ai connu ça, oui, je me souviens très bien.
Mais vous avez aussi connu le théâtre. Vous êtes né sous une bonne étoile?
Je sais pas, je suis né sous une étoile, sous plusieurs, parce qu'il y en a des milliards. Mais bonne, je sais pas. Moi, je suis très content de ce que je peux faire, en tout cas, oui. Oui, ça me plaît bien. C'est un métier qui me plaît beaucoup, que ce soit d'ailleurs... pour jouer le juste ou pour jouer quelquefois l'injuste et le salopard. Il faut savoir jouer tous les rôles aussi. Là, c'est un personnage qui est plutôt très sympathique et qui a une belle conduite. Mais les personnages qui n'ont pas cette conduite, qui sont à l'inverse de ça, on va dire, sans tomber dans quelque chose de manichéen, sont tout aussi intéressants. Les personnages sympathiques sont tout aussi intéressants à jouer que les personnages antipathiques, en fait. C'est même peut-être plus intéressant de jouer un personnage antipathique que de jouer un personnage sympathique.
Une bonne étoile ou des bonnes étoiles. Et vous, Laurence Stocker, est-ce que vous êtes un acteur sous influence?
Alors, je suis sous l'influence de la Comédie française, où je suis depuis 18 ans. Donc, c'est ma deuxième adresse, voire ma première souvent. Mais
comment elle vous influence? Cette
maison.
Cette maison, oui.
Ben, elle m'influence avec les textes qu'on peut y faire, qu'on peut y dire, avec les centaines de personnes qui y travaillent. C'est une sorte. On a toujours la figure emblématique de la ruche, pour parler de la Comédie française. Et c'est vrai que c'est bien. Ça me plaît pas mal parce que cette phrase qui est un petit peu la nôtre, c'est-à-dire « simul et singulis » en latin, bon, être ensemble et être soi-même, en fait. Il faut être ensemble, il faut servir une cause commune, et puis il ne faut pas oublier d'être aussi soi-même. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est une chose importante. Il faut se rappeler ça tous les jours. Mettre son ego de côté, parfois, pour servir un texte avec un ensemble d'acteurs qui quelquefois même en tournée c'est pas la bonne distribution qui est écrite, donc on sait plus qui joue quoi.
Il y a des metteurs en scène, des acteurs ou peut-être des gens tout simplement extérieurs à ce milieu qui vous ont particulièrement influencé, c'est-à-dire aidé à trouver qui vous êtes, quelle est votre singularité?
C'est-à-dire que aider à trouver qui on est, c'est compliqué, je pense que même une vie ne suffit pas, mais des acteurs qui m'ont porté, oui, il y a je parle toujours de Michel Serrault parce que c'est quelqu'un qui est d'une importance capitale pour moi. C'est une école de théâtre à lui tout seul. Et puis Nicholson aussi.
Mais Serrault, vous l'avez connu?
Non, malheureusement, je ne l'ai pas connu. Malheureusement, non.
C'est-à-dire que la leçon était une leçon de cinéma ou de planche?
Ah oui, c'était quelqu'un qui pouvait tout jouer. Je pense que je parle toujours de Michel Serrault parce que c'est quelqu'un qui peut absolument jouer toutes les personnes humaines. Tous les personnages, justement, du pire salaud au mec le plus extraordinaire. Et donc il a ce panache là, il a ce panel là, et alors c'est quelque chose d'incroyable. Et puis j'aime beaucoup les acteurs qui jouent les rôles, on va dire entre guillemets, de fous. Les fous, les gens en marge, les gens qui sont un petit peu barge, on dirait. Moi, ça me plaît beaucoup, ça, à jouer. Parce que les tenants et les aboutissants, pour arriver à ça, c'est toujours c'est toujours passionnant, en tant qu'acteur, hein, évidemment, en tant que pour fouiller ces rôles-là, pour fouiller les rôles de gens qui basculent, de gens qui deviennent dingues, parce que c'est une société dans laquelle on est, qui est une société où tout va à 100 à l'heure et on a de quoi devenir fou. Donc c'est intéressant de jouer ces personnes-là.
France Culture, 12h21.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Jeu d'influence. Avec nous l'acteur Laurent Stocker à l'occasion de la diffusion à partir de ce soir de cette nouvelle série Arte. Il y a aussi cette idée dans cette série de la fonction qui dévore ceux qui les servent. Comment incarner des hommes de pouvoir au cinéma, à la télé ou au théâtre? Vous avez été cette saison encore à la Comédie Française jouer dans Britannicus de Racine, oui, avec ce rôle de Néron. C'était aussi Stéphane Braunschweig qui mettait en scène là. C'est une reprise qu'on a pu voir donc sur la scène du français. Quelle différence dans le jeu, dans l'incarnation d'un homme de pouvoir, d'ailleurs qu'il soit contemporain ou pas, et entre la télé, le cinéma et le théâtre? C'est dans le changement d'échelle qu'on va mettre en avant l'incarnation de ces hommes.
C'est-à-dire que au cinéma ou à la télévision, on capte des choses sur le visage qui nous échappent parfois. Parce que c'est comme l'infiniment grand et l'infiniment petit. C'est-à-dire que quand on fait du cinéma ou de la télévision, on est, si vous voulez, enfin je prends toujours cet exemple, comme devant un microscope à balayage électronique presque. C'est-à-dire que chaque clignement d'yeux est capté, etc. Au théâtre le soir, c'est l'inverse. Il faut faire tout en grand. Il faut décupler. Il faut se faire entendre au quatrième balcon. Mais pour l'incarnation des rôles, c'est la même chose. C'est-à-dire que Néron, on avait pris le parti pris avec Stéphane Braunschweig que c'était pas quelqu'un qui hurlait comme on peut le voir habituellement. Au contraire, c'est quelqu'un de très très calme. C'était une force tranquille comme ça, mais qui sur un claquement de doigts peut faire tuer 2 millions de personnes. Voilà. On a des exemples aujourd'hui sur la surface du globe où il y a des dictateurs qui sont à peu près du même acabit. Mais c'est pas forcément ceux qui s'énervent ou qui parlent fort qui sont les plus dangereux, en fait, bizarrement. Mmh. C'est même plutôt l'inverse. Enfin, en tout cas, aujourd'hui. Parce qu'après, on a des figures de dictateurs comme Hitler qui hurlaient aussi. J'ai joué ça, en plus. J'ai joué Néron et j'ai joué Arthur Howe, qui était quand même une incarnation d'Hitler. Alors après, il faut se laver de ces personnages-là. Il faut s'en débarrasser. Prenez une douche, 15 minutes au moins, 10 minutes. Alors là, pour l'écologie, c'était pas terrible.
Denis Podalydès, lui, il dit justement que la différence entre le théâtre et le cinéma, c'est que le théâtre, c'est très physique, là où le cinéma, c'est nerveux.
Ouais.
Vous êtes aussi un comédien nerveux?
Je peux être très nerveux.
Ouais. Très nerveux. Ça passe par les nerfs.
Ça passe par les nerfs. Et d'ailleurs, quand je joue au théâtre ou au cinéma, ça peut arriver, ça dépend des scènes, je suis trempé après. J'ai besoin vraiment de changer la chemise parce que après, ça dépend aussi de ce qu'on joue. On peut être, si on joue du fédo ou si on joue des rôles physiques, effectivement, là, ça peut être quelque chose de très, très, très nerveux, de très tendu. Mais il y a ça aussi dans le simple fait de ne rien faire ou de parler d'une chose très très précise, ce qui était le cas par exemple de Guillaume Delpierre. Me retrouver parfois quand il y a une scène par exemple à une radio, on se retrouvait aussi à devoir lutter avec des idées et lutter avec des idées qui, ça paraît quelque chose qui n'est pas physique, mais en fait on peut très bien se retrouver en sueur après ça.
C'est ce que vous êtes en train de faire là en ce moment? Vous
luttez avec des idées? Je suis en train de le décrire et peut-être que oui, ça revient un petit peu.
La goutte va pas tarder
non,
à perler.
Non, non, quand même pas. Bah, je suis pas en train de jouer là.
Sociétaire de la Comédie Française depuis 15 ans, Laurent Stecker.
18 ans.
18 ans.
Eh oui.
Sociétaire aussi.
Je suis majeur cette année.
C'était pas 2004?
De la Comédie Française. 2004, je suis passé sociétaire.
Voilà, j'ai dit sociétaire.
Ah, pardon.
Depuis 15 ans.
J'avais compris.
Avant, oui, vous étiez pensionnaire.
Oui, pensionnaire. Oui, voilà. Absolument. Bravo.
Bon, on se met d'accord, en fait.
Non, bien sûr.
Vous échappez dans tous les cas assez régulièrement pour partir sur les tournages des films, alors de Claude Berry pour Ensemble, c'est tout. Emmanuel Mouret avec L'art d'aimer. Pierre Scheller, on le disait tout à l'heure, pour L'exercice de l'État. Ou encore Les Estivants de Valeria Bruni-Tedeschi, sorti cette année, dans lequel on vous voyait. Mais vous sortez aussi régulièrement du français pour jouer sur d'autres scènes d'Avignon au Théâtre de l'Europe. Vous avez une collaboration maintenant qui commence à sacrément tenir la route avec le metteur en scène Alain Françon. Oui. Toujours La Tempête de Peter Handke qu'il a adapté à l'Odéon en 2015 et un an après La Mère d'Edouard Bond sur une traduction de Michel Vinavert. Écoutez-le.
Il a passé sa vie, je crois, à essayer de comprendre ce que c'était que le rythme. Et je pense que dans son écriture, Michel, ça se ressent énormément. Enfin, je veux dire, il est beaucoup plus intéressé par le rythme que par le sens, par exemple. Et donc, je pense que dans ce travail-là, ça se sent, je veux dire. Il y a beaucoup, ne serait-ce que la différence qu'il y a entre une phrase courte et la longueur d'une phrase, ou enfin, des choses très concrètes, matérielles. Michel est quelqu'un qui, quand il est au théâtre, il préfère le sonore au visuel. Donc, ça veut dire que le matériau textuel, c'est un vrai matériau. C'est un matériau sonore, d'abord. Moi, par exemple, dans un mois à la campagne, je fais aussi en sorte que ce soit un matériau sonore. Oui, évidemment, il y a des images, mais les images, je les cherche même pas, elles viennent toutes seules. Enfin, elles arrivent, quoi. Je veux dire, c'est. Quant après, je pense que je dirais oui, c'est-à-dire que un acteur qui joue Bond et le texte de Bond commande quelque chose, c'est sûr. Là, par exemple, en l'occurrence, puisque je parle de longueur de phrase, la dernière fois que je discutais avec Edouard, il me disait la complexité maintenant de ce que les figures que j'ai à mettre en scène, la complexité est telle que je n'arrive plus à faire de phrases qui ont plus de 5 mots. Ça, par exemple, c'est important pour un acteur de le savoir.
Et c'est pas évident de se le mettre en bouche, Laurent Stocker, on imagine. Vous suivez toujours le rythme, il y a cette peur de l'acteur d'être à contre-temps par rapport à la pensée et,
oui,
et au rythme
sûr.
De l'auteur.
C'est comme un orchestre, il y a plusieurs instruments, il y a le sous-bassophone, il y a le tuba, il y a les altos, et il faut, c'est une chose vraiment d'ensemble. Donc si quelqu'un se met à jouer autre chose que la pièce, ou se met à faire un numéro d'acteur, on va dire, c'est beaucoup moins intéressant pour la pièce. Et pour le spectateur. Le spectateur retiendra sur le moment, peut-être, et même plus tard, le numéro d'acteur, mais le numéro d'acteur en soi n'est pas très intéressant, quand il est avec un groupe d'acteurs.
Alors, c'est pas un numéro d'acteur, mais vous étiez un sacré numéro dans la troupe qui a joué, la bande qui a été réunie par Thomas Ostermeyer pour La Nuit des Rois, ou Tout ce que vous voulez. Il la mettait en scène cette saison aux Français, là encore. Ça a été une expérience assez dingue. Vous étiez tous vraiment totalement délurés.
Superbes
dans cette pièce.
C'était vraiment un travail magnifique avec lui. Et puis, là, pour le coup, c'était vraiment, il s'inspire d'une méthode qui s'appelle la méthode Meissner, qui est une méthode où on commence toujours la répétition par des exercices pour parler à l'autre. C'est-à-dire que l'un dit, tu es en forme, et l'autre répond non, je ne suis pas en forme. Et tant que cet échange, c'est-à-dire l'autre recommence, tu es en forme, l'autre dit non, je ne suis pas en forme, tu es en forme, non, je ne suis pas en forme, tu es en forme, je ne suis... tant qu'il n'y a pas une vérité dans ces deux phrases, tant que les acteurs ne se sont pas vraiment parlé, on commence pas la répétition. Donc ça peut durer 20 minutes, une demi-heure, une heure. Il faut que les gens soient en connexion. Je sais pas, la connexion entre les acteurs, elle vient de là, hein. C'est quelque chose de très important. Si les acteurs démarrent sur le plateau et qu'ils se sont pas mis en connexion avant, c'est pour ça que j'aime toujours voir mes partenaires avant. S'ils se sont pas mis en connexion avant, ça fonctionne pas. Et dans la série de Jean-Xavier de Lestrade, je trouve que les acteurs se sont vraiment connectés.
Diffusé à partir de ce soir sur Arte avec vous, notamment Laurent Stocker. Vous êtes en forme ?
Oui, je suis en forme. Je ne veux pas faire la méthode Meissner avec vous à cette heure-ci.